Nous allons invoquer le Seigneur après ces chants qui nous ont permis d'entendre une autre musique que celle de la terre. Une musique qui est chargée de mots, M-O-T-S. Parce que la terre, c'est souvent des mots qui font mal. Eh bien, nous allons parler un peu aujourd'hui des mots pour vivre. C'est ce que j'ai mis dans le journal. Et j'aimerais vous parler de retrouver la foi. Mais d'abord, on va prier le Seigneur. On va fermer toutes nos fenêtres pour ouvrir celles qui donnent directement sur la cour de Dieu, sur le jardin de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, tu parles. Nous pouvons simplement dire... Nous voulons t'entendre, car à tes paroles, les océans ont produit des animaux, des poissons. La terre a produit ses animaux, toute sa verdure, et à ta parole, nos cœurs aussi se transforment. Nos cœurs deviennent autres. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous avons un sens, un avenir. Une raison de nous battre, de croire, d'espérer. Bénis chacun de nous qui nous débattons dans nos souffrances, notre nostalgie, nos inquiétudes pour les enfants, pour nous-mêmes. Écoute chacune de nos prières. Tu connais les malades au milieu de nous. Tu sais ceux qui ont perdu confiance. Redonne-nous la foi. Au nom de Jésus. Amen. Retrouver la foi. On ne perd pas la foi comme ça, comme on perd un trousseau de clés. Vous n'avez jamais perdu vos clés ? C'est terrifiant, ça. On retourne la maison. Mais quand c'est perdu, c'est perdu. Mais quand on apprend une langue, l'anglais par exemple, on ne perd vraiment jamais cette langue. Même si on n'y pratique pas, on dit j'ai perdu, je ne sais plus parler anglais. Puis quand on entend à nouveau, ça revient, des mots reviennent. Je pense que la foi, ce n'est pas un trousseau de clés qu'on perd, c'est plutôt un langage, un dialogue qui revient en nous. Je voudrais simplement lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 2. Jean, chapitre 10, verset 2. C'est la grande parabole de Jésus, on n'en lit que quelques versets, parabole sur le bon berger. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors, les brebis, c'est nous, et le berger, c'est lui. Hein? Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il appelle les brebis. Il y a une parole. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Je vais lire un peu plus loin, au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, c'est-à-dire l'ouvrier qui a été chargé de surveiller les brebis, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Le berger parle et voilà que les brebis se mettent en route. On a besoin de retrouver cette relation avec Dieu, de l'écoute de la parole, parce qu'on a besoin de retrouver la foi. Je pense que si on ne va pas vers la foi, vers la confiance en Dieu, on ne retrouvera pas l'amour. Parce que l'amour, il a une source, c'est Dieu. Et si on ne va pas vers Dieu, on va se débattre, mais on va perdre en plus l'amour. Et on va perdre en plus l'espérance. La foi, c'est une assurance. Dieu tient parole. Je ne dis pas Dieu vit, parce que je pense que nous avons tous conscience qu'il y a Dieu. Mais Dieu tient parole. Quand Dieu promet, la foi, c'est une certitude, une assurance. J'aime le psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Seigneur. Du fond de l'abîme, très profond, dans l'obscurité, là où plus personne peut nous voir. Et ce psaume dit ensuite, « Mon âme espère, j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Ce qui veut dire, l'homme qui écrit ce psaume, il est plus certain que le Seigneur accomplira ce qu'il a dit, que le soleil va se lever. Chaque matin, je ne me fais pas de soucis, le soleil se lève. Eh bien, le psaume dit, je suis plus certain du Seigneur que du lever du soleil. Le psaume a l'air de nous dire, un jour, on ne sait jamais. On voit tout aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de soleil. Un matin, tout le monde ouvrira sa fenêtre et on dira, ah, il n'y a plus de soleil. Mais le psaume dit, avec Dieu, jamais. Il est plus facile au soleil de s'éteindre qu'à Dieu de ne pas nous aimer, de ne pas être là. Ça, c'est la foi d'un enfant. C'est la foi d'Abraham. Dieu a dit, ça va arriver, c'est certain. Je connais un couple âgé, qui avait cette foi tranquille, foi de l'enfant. C'est un couple de la Bible, dont vous le connaissez aussi. Tout au commencement de l'Évangile, première page, premier mot de l'Évangile, ce couple s'appelle Zacharie et Élisabeth. Ils ne sont pas très jeunes, mais tous les deux, ils observent tous les commandements du Seigneur de façon irréprochable. C'est beau, hein ? C'est ça aussi la foi. C'est dire, je vais être agréable à Dieu, j'ai confiance en lui, je veux faire ce qu'il aime, je veux observer tous ses commandements. Et l'Évangile dit, ils n'avaient pas d'enfants parce qu'ils étaient avancés en âge, évidemment. Et puis un jour, vous connaissez l'histoire, pendant que Zacharie était en train de faire son service dans le temple de Jérusalem, voici que un ange lui est apparu, l'ange Gabriel, qui lui a dit, « Ne crains pas Zacharie. » Il est âgé, Zacharie, hein ? Il n'est peut-être pas très âgé, mais un peu quand même. « Ne crains pas Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Jean-Baptiste. Magnifique, hein ? Parce que Zacharie, en fait, il n'était pas déçu de Dieu. Il n'avait pas eu un enfant. Bon, il n'a pas eu d'enfant. Il avait prié. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'était pas déçu de Dieu en disant, oui, puisque c'est comme ça, Dieu n'existe plus. Dieu, c'est rien, c'est fini. La foi de Zacharie, c'est la foi qui dit, bon, ben, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, tu es dans le ciel, tu vis, tu fais ce que tu veux, tu m'aimes, tu es avec moi. Il avait toujours la foi, une foi tranquille, dans un Dieu qui finalement, oui, il fait tout ce qu'il veut et on n'a pas tout sur la terre, on n'est pas tous riches, on n'est pas tous grands, on n'est pas tous éternels, encore moins. Mais sa vieille prière, la prière de ses 20 ans, la prière qu'il faisait le soir avec Élisabeth dans la salle à manger, sa prière quand il disait « Seigneur notre Dieu, Dieu d'Israël, toi qui as donné un enfant à Sarah, donne-nous un enfant. » Cette prière, mes amis, elle a été entendue par Dieu. Elle a été enregistrée par Dieu. Elle est rentrée dans le cœur de Dieu. Zacharie, il n'y pensait peut-être plus. Parce que je ne crois pas qu'il, s'il avait 60 ans ou 70 ans, je ne crois pas qu'il priait toujours pour un enfant. Il croyait en Dieu, mais enfin, il y a des limites. Et la prière, elle est restée dans le cœur de Dieu, et un jour, elle s'est exaucée. Et même quand elle s'est exaucée, Zacharie n'y croyait même plus, voyez-vous, il n'y croyait même plus. Mais il a eu un enfant qui s'appelle, et comment, Jean le Baptiste. On a besoin de retrouver cette foi. Cette foi qui ne réussit pas tout, qui n'a pas tout sur la terre pour être riche, jeune et beau. Mais cette foi qui dit, Seigneur, tu es là, tu m'entends, tu ne rates aucune de mes prières. Seigneur, je te fais confiance pour la suite de ma vie. Avec Élisabeth, Zacharie, je te fais confiance. Alors pourquoi aujourd'hui on est dans un monde qui a de moins en moins la foi? Et ceux qui ont la foi, on les combat. On n'aime pas qu'ils en parlent. On n'aime pas qu'ils la montrent. Gardez ça pour vous, chez vous, dans votre salle à manger. On n'aime pas qu'on montre la foi. Pourquoi aujourd'hui le monde est-il devenu contre la foi, sans foi, pratiquement? Je pense qu'il y a un assoupissement, un aveuglement. Écoutez bien ce texte du prophète Ésaïe. Ils sont ivres, vous savez ce que ça veut dire, ivres, non pas avec du vin. Ils chancellent, ils marchent de travers, non pas parce qu'ils ont bu des liqueurs fortes, mais parce qu'il y a en eux un assoupissement. Ils se sont assoupis, endormis. Et quand on s'assoupit, eh bien, on chancelle, on marche de travers. Et je crois qu'il y a aujourd'hui dans le monde un assoupissement. La foi ne touche plus. Dans ce même chapitre d'Ésaïe, chapitre 29, le prophète il dit à quelqu'un, « Lis !» Et l'autre dit, « Je ne sais pas lire. » Assoupissement. Le livre est fermé, je ne comprends rien, tout est fermé. Aujourd'hui, devant la vérité de l'Évangile, devant la vérité de Jésus-Christ, notre Seigneur, unique Seigneur et Sauveur, les gens disent, c'est un langage fermé, c'est une histoire que je ne comprends pas, je ne sais pas lire tout ça. Les gens sont assoupis, on n'entend plus la voix de Dieu, on dort. Ivre de nos découvertes technologiques, ivre de nos loisirs. Il y a un dialogue avec Dieu qui s'est perdu, qui ne se fait plus. Vous savez que dès le commencement du monde, aux premières heures de l'humanité, Dieu a dit une parole, sa première, la toute première, « Adam, où es-tu ?» Déjà, le dialogue était rompu. Et leurs enfants, eux aussi, ils ont perdu le dialogue. La preuve, c'est que Caïn s'est jeté sur Abel et l'a tué sans dire un mot. Sans dire un mot. Plus de dialogue. avec Dieu, quand on ne parle plus à Dieu, on ne va pas parler aux autres, ou mal. L'Apocalypse dit, tous les habitants de la terre sont ivres, ils marchent de travers, chapitre 17, ils sont assoupis. On ne sait plus lire le livre de la vie, on ne sait plus entendre le Dieu de la vie, on ne sait plus ce que veut dire faire confiance à Dieu. Alors pourquoi cette catastrophe quand même? C'est une catastrophe. Il y a 150 ans ou 100 ans, les temples étaient pleins, les églises étaient pleines. Partout, il y avait cette recherche, cette foi. Aujourd'hui, c'est l'assoupissement. Pourquoi? Je vais vous lire une parole du prophète Jérémie. La cigogne dans le ciel, vous savez ce que c'est qu'une cigogne? En Alsace, il y en a quelques-unes. La cigogne dans le ciel connaît le moment où elle doit partir. La tourterelle, l'hirondelle, la grive, tous ces oiseaux savent quand ils doivent revenir. Jusque-là, ça va. Mais, dit le Seigneur, mon peuple ne connaît pas les lois de son Dieu. Les oiseaux, ils se débrouillent bien. Et nous, les humains, on a perdu la parole qui doit diriger la vie. Parce que la cigogne, la carte routière, elle est dans sa tête. Elle sait où elle va. Elle va parcourir 3000 kilomètres, elle sait où elle va. Elle a une boussole, elle a une horloge dans la tête, une carte routière. L'hirondelle aussi, capable de traverser la mer. Mais nous, notre carte routière pour aller vers Dieu n'est pas dans notre tête. Notre carte routière pour aller dans la foi, ce n'est pas dans nos gènes. La Bible dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Ce n'est pas inné en nous. Ce n'est pas inné. Il faut qu'on nous le dise. Il faut que Dieu nous le révèle. Et Dieu nous le dit dans la Bible. C'est là ma conscience. La Bible est la conscience de ma conscience. C'est l'âme de mon âme. La cigogne, elle se débrouille toute seule. Moi, je ne me débrouille pas tout seul. Il me faut la Bible pour ne pas perdre ma route. Et comme on a rejeté la parole de Dieu, on est aujourd'hui dans une grande ignorance, on ne connaît plus, on a perdu notre route, on a perdu la relation avec Dieu, on a perdu le chemin, on a perdu la vie. Rien ne peut remplacer l'Évangile. Ça fait partie de notre vie. Nous naissons avec du sang, une cervelle, avec des membres, et nous sommes nés aussi avec ou pour une parole de Dieu. Ça fait partie de la vie. La rejeter, c'est comme si je disais, je ne veux plus de cervelle. Je ne veux plus de cervelle, ça ne sert à rien. On rejette la vitalité, l'essentiel, ce qui fait fonctionner l'être humain, la parole de Dieu qui donne un sens à tout. Mais heureusement, nous l'avons lu tout à l'heure, heureusement si le dialogue s'est cassé, si on n'a plus la parole, si on est comme des insensés, le Seigneur n'arrête pas de nous parler. Le Seigneur n'arrête pas de faire entendre sa voix pour que ses brebis reviennent. Le Seigneur n'a pas coupé les ponts, le Seigneur n'a pas arrêté sa relation. Il n'a pas cessé de nous aimer. Il a été attristé de nos situations familiales, conjugales. Il a été dans la peine parce que c'est un Dieu qui souffre pour nous, avec nous. Alors il fait entendre sa voix pour renouer le dialogue, pour qu'on retrouve la foi. Et quand on entend sa voix, c'est libre, hein, dit toujours aux gens qui rentrent, c'est libre. Quand on entend sa voix, on est attiré. On le suit. Il nous fait lever. Il nous fait lever. Vous connaissez l'histoire de la jeune fille de Jaïrus, 12 ans, affreux. C'est une histoire qui n'est pas unique, bien sûr. On a vu aussi des familles qui perdaient un jeune enfant. C'est tragique, on ne peut pas faire plus en tragédie. Et chez Jaïrus, il y avait sa petite fille qui dépérissait, et elle est décédée. Alors, seule une parole du bon berger, seule une parole de Jésus peut redonner la vie à cette petite fille. On ne peut rien demander à la petite fille. On ne peut pas lui dire, elle est morte, secoue-toi, crois. On ne peut pas lui rien attendre de cet enfant. Elle est partie. Jésus fait le premier pas. Jésus va vers elle, lui prend la main et lui dit dans sa langue en araméen, la langue des Syriens, « Talitha koumi, lève-toi jeune fille, lève-toi !» Il fait le premier pas et à sa voix, on suit, on se relève, nos chaînes tombent, nos désordres se règlent. Il fait le premier pas. Qui a demandé à Dieu de faire des arbres ? Personne. Qui a demandé à Dieu de faire des baleines bleues qui chantent dans la mer et de faire les nuages ? Personne n'a demandé à Dieu. C'est Dieu qui, le premier, a fait toutes ces choses. Il commence toujours le premier. Jésus parle et on entend sa voix, une voix de chef, une voix de père. Une voix de libérateur. Je suis né en Normandie, pas loin des plages du débarquement. Enfin, le débarquement était déjà fini quand je suis né. Mais tout le monde parlait de la libération. Quand les Américains sont arrivés, libérant l'Europe, tout le monde parlait de la libération. Et la voix du Seigneur, c'est une voix de libérateur. Une voix de père, d'ami. Une voix qui nous attire, une voix qui nous fait remonter à la surface. Vous vous rappelez l'histoire de ce prophète qui un jour a perdu, dans la Bible, il avait perdu le fer de sa hache. Coupé des arbres, pouf, le fer est tombé à l'eau. Puis ça plonge, un bout de fer qui fait 1 kilo, ça tombe pile, net. Impossible de le récupérer, il est tombé dans le fleuve. Et voilà qu'avec la parole d'Élisée le prophète, le fer a refait surface. Pour nous montrer que quand Dieu parle, on refait surface. On monte, on s'élève. À sa parole, nous pouvons nous lever, nous pouvons le suivre. J'aime beaucoup le psaume 25. « Je tourne constamment les regards vers le Seigneur » qui me fera sortir mes pieds du filet. » Parfois, on est dans un filet, on marche, mais on n'avance jamais. On se débat, mais on ne bouge pas. On crie, mais ça ne va pas, rien n'y fait. Le filet, c'est terrible. L'oiseau dans le filet, il ne peut rien faire. Alors, le psaume dit, « Je tourne constamment mes regards vers le Seigneur, il me fera sortir mes pieds du filet. » Bien, c'est ça la foi, c'est retrouver cette force de la parole qui nous permet de sortir de nos filets, c'est retrouver la présence de Jésus. Parce que la foi, ce n'est pas un catéchisme. Bien sûr, il y a dans la Bible un enseignement important, mais ce n'est pas d'apprendre par cœur des lois. La foi, c'est une compagnie avec Jésus, c'est une présence de Jésus, c'est être avec lui. Être pris en main, comme ma petite fille Jaïrus, il l'a pris par la main, c'est beau, hein? Il la prend par la main, il l'a tiré un peu, hop, jeune fille, lève-toi, toc. La foi, c'est se lever, La foi, c'est marcher. La foi, c'est dépasser. Dépasser les tristesses, les temps de mort, les temps de noirceur dans notre vie. Alors, il n'y a pas que la petite fille de Jaïrus. Il y a des vivants qui sont morts aussi. Vous ne connaissez pas des vivants morts? Des gens qui vivent, mais ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont sans espérance, sans lendemain. Leur passé est perdu, leur avenir est perdu. Ils sont dans la mort. C'est triste, on en connaît des gens comme ça. Je pense au fils prodigue, évidemment, qui a renié son passé, son père, sa mère, et puis qui n'a pas d'avenir. Quand on renie son passé, en général, on n'a pas beaucoup d'avenir. Mais l'amour de son père lui a redonné de sortir du filet. À un certain moment, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ?» Que son père, il a craché dessus. Il aurait pu le tuer, il aurait peut-être tué. « Combien d'ouvriers chez mon père ?» J'aime beaucoup le mot « mon père ». « Ont du pain et moi je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Voilà. Dialogue, retour. L'amour de son père a réveillé en lui. Il faut se lever, comme la fille de Jaïrus. Il faut se mettre en marche, il faut revenir, il faut bouger. Retrouver la foi. Voyez-vous, toute une démarche avec la Bible. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Pour retrouver la foi, il y a eu dans notre vie des chasseurs. Je n'ai jamais aimé la chasse. Tuer des animaux, j'aime pas trop ça. J'aime pas ça du tout. Mais écoutez bien cette parole du prophète Jérémie, chapitre 16. « J'enverrai une multitude de chasseurs. » Étonnant. « Et ils les chasseront des montagnes et des fentes des rochers. » Qu'est-ce que ça veut dire? Des chasseurs qui chassent les gens des montagnes et des fentes des rochers. Quels chasseurs? Regardez le fils prodigue. La faim, la pauvreté, la solitude, le mépris ont poussé le fils prodigue à sortir de sa boue pour qu'il revienne vers son père. Ce sont des chasseurs. La solitude, la déception, il est tout seul là, et tout ça, ça fait que ça a été comme des chasseurs qui ont poussé ce pauvre garçon à rentrer chez lui. Dans le psaume 13, que j'aime beaucoup aussi, « Les soucis de notre âme, dit le psaume, les chagrins de notre cœur, des gens méchants, ennemis, ce sont des chasseurs qui nous bousculent et qui nous disent, qui nous poussent dans les bras de Dieu. » Dans notre vie, on a parfois des gens, des choses, des moments dans la vie qui nous poussent dans les bras de Dieu, des chagrins qui nous poussent vers Dieu. Des deuils qui nous poussent vers Dieu. On se jette dans ses bras parce qu'on se dit, Seigneur, il n'y a plus rien, il n'y a que toi maintenant. On cherche un refuge. Puis le Seigneur, il nous dit, venez à moi. Voilà, parfait. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Pour vos âmes. Je pense à David dans la Bible, le roi David, roi de Jérusalem. C'était pas rien David. Eh bien, David, il a été poursuivi toute sa vie, enfin une partie de sa vie, par le roi Saül, qui était un roi épouvantable, méchant, jaloux. Et le roi Saül, il savait manier la lance. C'était déjà un bel homme, Saül, hein, très grand. Et il maniait la lance contre David. Et il maniait une autre arme qu'il avait dans sa poche. Avec ça, on fait beaucoup de mal. Les outrages. Avec ça, on transperce un cœur. On met en morceaux quelqu'un. on l'enterre, les outrages. Et un jour, Saül a poursuivi David en l'outrageant. Je ne sais pas ce qu'il disait, peut-être « David, ça vaut rien, David, c'est un rat, David, il mérite d'avoir la tête coupée, David, c'est rien. » Il l'a poursuivi et David a été obligé de se réfugier dans une grotte, une caverne. Mais dans la caverne, David a dit « Seigneur, je cherche en toi mon abri. Je viens me réfugier à l'ombre de tes ailes. » Voyez-vous, le roi qu'il chassait, là, qui chassait David, eh bien ce roi, il l'a mis dans les bras de Dieu. Et David disait « Je suis au milieu de lions, je suis couché avec des gens qui vomissent le feu, qui ont une langue tranchante comme un couteau. Seigneur, je cherche en toi mon refuge. » David a été, s'est jeté dans les bras de Dieu, poursuivi par le chasseur Saül. Et dans notre vie, on a des événements aussi où on se dit, j'espère qu'on se le dit, j'espère, je n'ai plus que le Seigneur, je n'ai plus que lui. Eh bien, je vais conclure. Retrouver la foi, ben, je vais vous parler d'un homme maintenant qui a été bousculé dans sa vie. Enfin, il l'a bien voulu. Hein. Parfois, on vit des choses dures parce qu'on l'a voulu, on l'a cherché. Et cet homme, eh bien, il s'est retrouvé très mal, très 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 mal. Mais là, il a retrouvé la foi. Cet homme devait être jeune, je pense, et commis beaucoup de fautes, graves, des bêtises. Quand, autrefois, quand nos parents nous disaient « faites pas de bêtises », ça voulait dire beaucoup de choses. Ça veut dire « ne fais rien de grave contre quelqu'un ». Et cet homme s'est retrouvé condamné à mort. Et puis, il n'y avait pas la grâce présidentielle. Il n'y avait pas la grâce de Pilate. Personne ne l'a défendu. Et cet homme, au temps de Jésus, s'est retrouvé cloué, crucifié, sur une croix, à côté de Jésus, à côté de Jésus. Vous aussi, vous êtes à côté de Jésus, attention, vous n'êtes pas loin, il n'est pas loin de vous. Et là, peut-être qu'au fond de lui, le brigand sur la croix, il devait penser, comme le psaume numéro 13, « Seigneur, donne de la clarté à mes yeux, pour que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Parce que si on ne voit rien dans la vie, on va mourir et puis on n'aura rien reçu, on n'aura rien gagné. Mais là, le brigand, il a dit une parole. Tout est renoué. Il a commencé à prier. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Dialogue renoué. La foi revient, puisqu'il, ça veut dire « reste avec moi quand je vais mourir, reste avec moi quand je serai dans cette fin de vie, reste avec moi quand je vais faire le grand passage, reste avec moi après ma mort, reste avec moi dans l'éternité, et quand tu reviendras à la fin du monde, reste encore avec moi. » Il a retrouvé la foi. Et Jésus va lui répondre « ce n'est pas en fin de vie que tu seras avec moi. Ce n'est pas dans l'éternité, ce n'est pas dans des milliers d'années. Aujourd'hui, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ça, retrouver la foi. C'est être avec Jésus pour toujours. Et le brigand, il a vraiment vu là la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'était pas la beauté de Jésus. Pas de beauté, Jésus. La gloire de Dieu, ce n'était pas la force de Jésus. Aucune force. La gloire de Dieu, c'était l'amour infini, infiniment grand de Jésus qui donne sa vie pour vous et pour moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est la foi des garnes qui disent le soleil se lève, mais le plus sûr, c'est que Dieu va se lever aussi. C'est la foi de Zacharie qui dit on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, mais on continue de faire confiance à Dieu. C'est la foi de Jaïrus qui dit par une parole, Jésus a remis notre petite fille, notre petit bout de chou en marche. Ça, c'est la foi des apôtres, c'est la foi de l'Église. Renouer le dialogue, entendre Dieu, laisser le Seigneur nous saisir et nous dire des paroles étonnantes. Tu seras avec moi, quelle compagnie, aujourd'hui, c'est rapide, hein, dans le paradis, on ne peut pas mieux faire. Donne-nous la foi, Seigneur. Amen. Redonne-nous la foi. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, tu veux que tes enfants soient à ta table et qu'ils partagent avec toi la vie abondante et rayonnante, non pas dans la crainte, dans la tristesse et dans les souffrances interminables, dans l'éloignement, mais tu veux que tes enfants soient dans ta compagnie, toujours à tes côtés. Alors tu nous appelles, tu nous lances des paroles comme un message d'amour pour revenir. Merci pour les exemples de foi de la Bible. Et merci parce qu'un jour nous avons fait un pas vers toi, peut-être poussé par des chasseurs qui s'appellent dépression, solitude, tristesse, inquiétude. Et tu nous as accueillis, tu nous as reçus, comme tu as reçu le brigand sur la croix. Garde-nous, Seigneur, dans toute notre vie, dans cette journée, au milieu de la famille, de l'église, du travail, partout, dans la rue. Garde-nous, nous voulons te faire confiance. Mon âme espère dans le Seigneur. Plus que les gardiens ne comptent sur le matin. Merci Seigneur. Amen.